Pour tous les amoureux du jazz, Marie-France Guimard-Roche a le très grand plaisir de vous présenter Jazz Rétro. Avec son compagnon John Levy, les dettes et toujours la drogue, la vie difficile de Billie Holiday se poursuit. Elle est désenchantée et découragée, car après sa sortie de prison, sa carte de travail lui est retirée pour avoir enfreint les critères de bonne moralité. Elle ne peut plus chanter dans les clubs de New York ou dans tout endroit vendant de l'alcool. Seules les grandes salles de concert lui sont possibles, mais il est difficile de les remplir plus d'un ou deux soirs de suite. Par ailleurs, elle est impliquée dans une bataille d'agents entre Joey Glazer et Eddie Fishman, qui s'occupe désormais d'elle. Se produit avec Lionel Hampton à la radio et avec Count Basie au Strand Theater. Elle sort désormais avec John Levy, gangster de seconde zone, surnommé par dérision Al Capone. Cependant, elle est toujours plongée dans l'héroïne et le retrait de sa carte la force à chanter hors de New York. Des engagements évidemment moins intéressants et moins bien rétribués. En outre, John Levy récupère désormais tout ce qu'elle gagne et la terrorise. Elle se fait prendre en possession de stupéfiants à San Francisco. En réplique, son amie Tallulah Bankhead fait jouer ses relations, dont Edgar Hoover, alors directeur du FBI, grâce à quoi Billie Holiday est acquittée. Malgré cela, les ennuis persistent. Elle subit toujours les violences de John Levy, son accompagnateur et ami. Bobby Tucker l'abandonne. La police la traque, elle manque plusieurs fois d'être prise en possession d'héroïne. La presse ne manque pas une occasion de titrer sur elle, comme Downbeat en septembre 1950. Billie, de nouveau, dans les ennuis. Lors d'un enregistrement en 1949 pour Decca, notamment avec Horace Henderson, Lester Young et Louis Armstrong, elle a du mal à tenir le rythme. Elle se fait remarquer par ses retards, ses excès, une diction de plus en plus empâtée par l'alcool. Decca ne renouvelle donc pas son contrat en 1950. Billie plonge dans les dettes jusqu'au cou. John Levy, qui encaisse ses cachets, n'a payé aucune facture. Lorsqu'enfin elle le quitte, elle perd beaucoup d'argent mais retrouve une certaine liberté. Elle reste toutefois contrainte de faire de longues tournées puisqu'elle ne peut toujours pas chanter à New York. Fin 1950, elle renoue enfin avec le succès à Chicago en partageant l'affiche du High Note avec le jeune Miles Davis. De W.C. Handy, Billie chante St. Louis Blues. 1951, Billie Holiday trouve une petite maison de production, Aladdin, pour laquelle elle enregistre quelques disques, mal reçus par les critiques. Elle rencontre également à Détroit un de ses anciens amants, Louis McKay, qu'elle avait connu à Harlem quand elle avait 16 ans. Marié et père de deux enfants, Louis McKay devient néanmoins son nouveau protecteur et contribue à relancer sa carrière. Elle s'installe sur la côte ouest et signe un contrat pour le label Verve de Norman Granz. Elle enregistre avec des partenaires dignes d'elle. Charlie Shavers à la trompette, Barney Kessel à la guitare, Oscar Peterson au piano, Ray Brown, le mari d'Ella Fitzgerald, à la contrebasse, Alvin Stoller à la batterie et Flip Phillips au saxophone. Le disque Billie Holiday Sings, qui obtient un franc succès, est suivi de plusieurs sessions. Son permis de travail à nouveau refusé, elle alterne les tournées fatigantes et les grands concerts à l'Apollo Theater et au Carnegie Hall de New York. En 1954, elle réalise son vieux rêve de tourner en Europe. Accompagnée de Louis McKay et de son pianiste Carl Drinkard, elle chante en Suède, au Danemark, en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, à Paris, en Suisse. Elle repasse ensuite par Paris en touriste avant de rejoindre l'Angleterre où ses concerts sont couronnés de succès. Une tournée fructueuse et l'un des meilleurs souvenirs de sa vie. De retour au pays, malgré la drogue, malgré l'alcool, elle se surpasse. Elle se produit à nouveau au Carnegie Hall, au Festival de Jazz de Newport, à San Francisco, à Los Angeles et continue d'enregistrer pour Verve. Downbeat lui décerne un prix spécialement créé pour elle. Elle embauche aussi une nouvelle accompagnatrice, la jeune Memory Midget. Et Memory l'aide dans ses tentatives pour décrocher de la drogue. En vain, hélas. Son influence ne plaît d'ailleurs pas à McKay, qui la chasse.
In my solitude, you haunt me.
2 avril 1955, Billie Holiday retrouve le Carnegie Hall, où elle participe à un grand concert en hommage à Charlie Parker, mort le 12 mars cette année-là. Aux côtés de Sarah Vaughan, Dinah Washington, Lester Young, Billy Exkin, Sammy Davis Jr., Stan Getz, Thelonious Monk, elle clôt le concert aux alentours de 4 heures du matin. En août 1955, elle enregistre un nouvel album pour Verve, Music for Torchin, un chef-d'œuvre réalisé avec Jimmy Rolls au piano, Sweet Edison à la trompette, Barney Kessel à la guitare, Benny Carter à l'alto, John Simons à la basse et Larry Bunker à la batterie. Elle retrouve ensuite les clubs de la côte ouest. En 1956, Billie Holiday est arrêtée, avec Louis McKay en possession de drogue. Un nouveau procès se profile. Elle effectue une nouvelle cure de désintoxication. À l'époque où sort son autobiographie « Lady Sings the Blues », pour l'essentiel d'ailleurs une compilation de toutes ses anciennes interviews réunies par le journaliste William Dufty, admirateur de la diva. Cette autobiographie est cependant considérée comme fausse. La santé de Billie se dégrade de plus en plus. Sa nouvelle pianiste, Corky Hale, témoignera plus tard du calvaire de la chanteuse. Son épuisement, les ravages de la drogue et de l'alcool, les longues manches pour cacher les traces de piqûres qui couvrent même ses mains, la fatigue, la perte de poids, l'ivresse avant les concerts. La perspective de son procès avec McKay la terrorise. Enfin, ce dernier la délaisse. Festival de Newport, ainsi qu'à la télévision, dans l'émission The Sound of Jazz sur CBS, en compagnie entre autres de Lester Young, Coleman Hawkins, Ben Webster, Jerry Mulligan et Joy Eldridge, mais aussi du jeune Mal Waldron, son nouvel accompagnateur. McKay quitte définitivement Billie Holiday et celle-ci engage une procédure de divorce. Elle enregistre Lady in Satin en février 1958 avec des chansons entièrement nouvelles et un orchestre dirigé par Ray Ellis, auteur des arrangements. Un album poignant, de même que son tout dernier, simplement intitulé Billie Holiday, enregistré début 59. Elle fait également une apparition au Festival de Jazz de Monterey en octobre 1958 et effectue une nouvelle tournée européenne au mois de novembre. Elle est sifflée en Italie où sa prestation est abrégée. À Paris, elle assure à grand-peine un concert à l'Olympia. Exténuée, sa tournée prend l'eau. Elle accepte de jouer au Mars Club avec Mal Waldron et Michel Gaudry à la contrebasse. Le public, tout acquis à Billie, l'acclame. On se bouscule dans le Mars Club. On y retrouve les célébrités de l'époque. Juliette Gréco, Serge Gainsbourg ou encore Françoise Sagan qui écrira. C'était Billie Holiday et ce n'était pas elle. Elle avait maigri, elle avait vieilli. Sur ses bras se rapprochaient les traces de piqûres. Elle chantait les yeux baissés, elle sautait un couplet. Elle se tenait au piano comme à un bastingage par une mère démontée. Les gens qui étaient là l'applaudirent fréquemment, ce qui lui fit jeter vers eux un regard à la fois ironique et apitoyé. Un regard féroce, en fait, à son propre égard. À 20 ans, Billie Holiday s'émancipe de ses modèles, notamment de Bessie Smith et Louis Armstrong. Son articulation un peu traînante est compensée par un sens du rythme unique, jouant avec les imperceptibles retards, les phrasés décontractés qui créent le swing si particulier de ses prestations. Elle possède un timbre un peu enroué, allié à une diction claire et un vibrato discret. Billie Holiday ne chante pas, elle joue, dans tous les sens du terme. Elle est à la fois enfant et actrice. Déjà dans les années 30, cette sonorité si particulière et intimiste s'impose, quitte à se priver d'un plus grand succès populaire. Tout le long de sa carrière, Billie manque de la puissance d'une Bessie Smith et de l'agilité d'une Ella Fitzgerald. Heureusement, elle rencontre un contexte favorable grâce à deux éléments. La généralisation du micro et la mode des chansons lentes, refrains d'amour et blues. Le fait d'avoir pu chanter très jeune avec les meilleurs jazzmen de l'époque n'a pu que stimuler ce talent. Et l'entente entre Billie Holiday et Lester Young frôle le mimétisme, sans jamais tomber dans l'imitation. Les excès de Billie Holiday ne sont pas sans conséquences sur sa voix. Dès les années 40, elle peine souvent à se lancer au début des concerts et des séances d'enregistrement. Elle a besoin d'un verre de gin ou de cognac pour s'éclaircir la voix. Elle a également beaucoup de mal à renouveler son répertoire et ne retient qu'à grand-peine les paroles des nouvelles chansons. Au fil des ans, sa diction si réputée devient pâteuse. Son timbre, légèrement enroué, devient rauque, râpeux. La fatigue physique s'ajoute à tout cela. À 40 ans, Billie Holiday souffre quand elle chante et cela s'entend. On entend aussi qu'elle n'a plus confiance dans cette voix vacillante et qui la trahit si souvent. L'arrangeur et chef d'orchestre Ray Elise s'épuise sur l'album Lady in Satin. Mais quelque temps plus tard, en entendant l'album, en constatant l'infinie tristesse qui caractérise des chansons comme I'm a fool to want you ou You've changed, il comprend la portée artistique d'un tel témoignage. Il accepte d'enregistrer avec Billie son album Testament, Billie Holiday. Le musicien a évoqué plus d'une fois le souvenir de l'enregistrement Lady in Satin. Je dirais que le moment le plus intense en émotion fut de l'avoir écouté le playback de I'm Fool to Want You. Elle avait les larmes aux yeux. Quand l'album fut terminé, j'ai écouté toutes les prises dans la salle de contrôle. Je dois admettre que j'étais mécontent de son travail. Mais c'est parce que j'écoutais la musique, pas l'émotion. Ce n'est qu'en entendant le mixage final, quelques semaines plus tard, que j'ai compris que sa performance était vraiment formidable. As Time Goes By.
Remember this, a kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh, the fundamental things apply as time goes by, and when two lovers woo, they still say I love you, on that you can rely, no matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs never out of jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. Songs never out of date, hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man. must have his mate that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.
Après avoir puisé très largement pour ces émissions dans Wikipédia, Marie-France Guimaroche vous dit au revoir et à bientôt pour un nouveau numéro de Jazz Rétro enregistré et réalisé par Pierre Écart pour vous dans les studios du Rocasse de Radio Grand Ciel.